Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Rotten sur Judaïk FM.
Sugar for my baby, and my sugar's my sugar for me. Means I'm crazy for my baby, and my baby's crazy for me. Things were mild till I met my honey, now I'm wild over honey.
Chères auditrices, chers auditeurs, bonsoir et bienvenue dans l'émission mensuelle de l'Institut européen des musiques juives. Notre objectif, vous faire découvrir la richesse et la diversité des musiques juives d'hier, mais aussi d'aujourd'hui. Et ce soir, j'ai le plaisir d'accueillir dans ce studio Simra Arom et Gabriel Chabanier. Messieurs, bonsoir.
Bonsoir.
Alors, on va vous présenter un par un. Vous me permettrez, honneur de l'âge, je vais présenter Simra d'abord. Simra Arom, vous êtes en toute modestie un des ethnomusicologues les plus brillants de notre temps. Jean-Jacques Nattier, un autre monument de l'ethnomusicologie, professeur à l'Université de Montréal, a dit à propos de vous, si le prix Nobel d'ethnomusicologie existait, Simra Arom mériterait de le recevoir. Alors, pourquoi a-t-il dit cela? C'est ce que nous allons découvrir dans cette émission, notamment grâce au témoignage de Gabriel Chabanier, qui a produit début 2014, je crois, un film documentaire sur la vie et l'œuvre de Simra Arom, un film de Jérôme Blumberg qui s'intitule tout simplement Simra. Alors Simra, votre prénom signifie « joie » en hébreu, mais votre vie, ou tout au moins votre enfance, n'a pas été si joyeuse que ça. Vous êtes en effet né en 1930 à Düsseldorf, donc en Allemagne, et vous aviez à peine 3 ans lorsqu'Hitler est arrivé au pouvoir. Avez-vous le souvenir de cet événement et plus globalement de votre petite enfance dans l'Allemagne nazie?
Non, l'arrivée de Hitler au pouvoir, non, je m'en souviens pas, j'avais 3 ans quand même. Mais après, oui, tout à fait, oui. Oui, pendant l'enfance, bien sûr, je l'ai même vu à Düsseldorf.
Vous avez vu Hitler?
Oui.
En réalité.
En réalité, il n'y avait pas de télévision, oui. En réalité, ou rien. Voilà, donc je l'ai vu en réalité.
D'accord. Et quelle était l'ambiance, enfin, chez vous, est-ce qu'il y avait une appréhension, enfin, vous étiez...
C'était appréhension, n'est pas le bonbon, c'est la peur, tout le temps, la peur, c'est... On peut comparer ça au régime stalinien, il n'y avait pas grande différence, sauf l'idéologie qui était derrière, mais sinon c'est la même chose.
Et vos parents parlaient devant vous ouvertement
Mes parents parlaient devant mon frère et moi, j'avais un frère aîné qui est décédé entre-temps, et quand ils parlaient d'Hitler, tout d'abord, ils ne disaient jamais Hitler, on disait Haroch, donc le chef. Mmh. Et pour dire Haroch, on baissait la voix, c'est pour dire. Ouais. C'est-à-dire que même en hébreu, on n'osait pas dire le mot, il n'y avait aucun voisin qui comprenait l'hébreu, mais malgré ça, je pense que c'est ça qui résume le mieux l'atmosphère dans laquelle on vivait.
Je comprends. Alors, même si c'est des souvenirs qui sont douloureux, avant de continuer à retracer votre vie, je vous propose d'écouter un court extrait de l'opéra de Katsu de Kurt Weill, en allemand dit « Drei Groschenoper », que nous avons déjà diffusé dans une émission précédente, mais ce morceau est tellement représentatif de l'Allemagne au tournant des années 30 que je ne résiste pas à l'envie de vous le faire écouter une nouvelle fois.
Und die trägt ihr im Gesicht. Und McGee's, der hat ein Messer, doch das Messer sieht man nicht. An dem schönen blauen Sonntag liegt ein toter Mann am Strand. Und ein Mensch geht um die Ecke, den man Mäcki-Messer nennt. Und die minderjährige Witwe, deren Namen jeder weiß, wacht auf und war geschändet. Mäcki, welches war dein Preis?
La complainte de Maki Messer, extrait de l'opéra de Katsu de Kurt Weill dans sa version originelle. D'ailleurs, on entend l'Otelenia, la femme de Kurt Weill. Alors, Gabriel Chabanier, cette mélodie nous introduit au film documentaire que vous avez produit avec votre société Le Miroir, consacré à la vie de Simra. Ce documentaire sera diffusé le 27 juin prochain au Mémorial de la Shoah à 19h30. Évidemment, je vous invite, chères auditrices et auditeurs, à ne pas manquer cet événement dont je rappellerai tous les détails pratiques à la fin de cette émission. Mais ma question, Gabriel Chabanier, c'est comment vous est venue l'idée de produire ce documentaire réalisé, rappelons-le, par Jérôme Blumberg. La genèse de cette histoire, c'est quoi ?
Alors, la genèse de cette histoire vient de Jérôme Blumberg, que je connaissais depuis une vingtaine d'années, sans avoir jamais travaillé avec lui. Et un beau jour, comme il travaillait pour le CNRS en tant que réalisateur, ils nous ont contactés. Et il s'avère que ma femme, Dana Rapoport, est aussi une élève de Simra. Et il y a une double connexion, d'une part par le CNRS et via Simra, qui a fait que je me suis tout de suite intéressé à l'histoire de Simra, qui nous a révélé petit à petit, grâce à ce film. Donc on a pu produire pendant, ça a duré quand même un certain temps, parce qu'il y a eu plusieurs tournages en Europe, en Géorgie, en Centrafrique,
en Israël.
Mmh. Et ça a mis une certaine période, parce qu'on avait des petits moyens. Au départ, on est parti tout petit. Et petit à petit, on a réussi à trouver des financements et à produire le film qu'on verra donc fin juin au Mémorial.
Donc combien d'années en tout pour tourner ce film ? Enfin, depuis le début jusqu'à la fin, 2 ans, 3 ans ?
Ça, entre 2 et 3 ans. Ça a dû mettre 3 ans vraiment au total. Il y a eu aussi une longue période de montage, parce que le montage est important et c'est une fine construction comme ça, et qui a mis vraiment plusieurs semaines. Je ne sais plus, on a eu 18 semaines, mais réparties sur de longues périodes. Donc ça a mis 3 ans en tout.
Alors dans ce film, sans en dire trop à nos auditrices et auditeurs, de manière à ce qu'ils aient envie de le voir, mais on vit avec Simra à Rome depuis, je dirais presque, sa naissance, son enfance en tout cas, et son parcours de vie qui est absolument étonnant. Un parcours de vie qu'on va, dans le cadre de cette émission, parcourir en quelque sorte. Et pour faire une seconde pause musicale et pour rappeler des souvenirs à Simra, je vous propose d'écouter une danse israélienne des années 1950 sur laquelle Simra a peut-être dansé, vous nous le direz après, je ne sais pas, mais vous étiez en Israël à cette époque-là. Donc on écoute Anna Alar Doder, interprétée par Ahova Tzadok sur une mélodie de Emmanuel Amiram.
Ah!
Anna Allard Oder, interprétée donc par Howard Sadok, et au piano le grand Nahum Nardi, qui était le mari de Brasfira et qui a arrangé énormément de musique dans les années 50-60 et au-delà, de musique israélienne, mélangeant notamment des musiques yéménites. Alors pourquoi cet extrait, Simra? C'est parce qu'on a évidemment pas parlé beaucoup de vous là. On sait que vous êtes né à Düsseldorf en 1930, que vous avez dû fuir l'Allemagne nazie avec vos parents après la nuit de cristal en 1938.
Oui, 38.
Et là, vous êtes arrivé en Belgique, je crois.
À Anvers.
Et alors, comment vous êtes passé de Anvers en France? Comment ça s'est...
De Anvers en France, le jour où les Allemands ont pénétré en Belgique. On a plié bagages, il n'y en avait pas beaucoup, je dois dire, déjà qu'on était réfugiés, et puis on a pris le premier train qui partait vers la France, en se disant, oh, en France, on sera en sécurité, je ne sais pas pourquoi ils se sont dit ça, puisque les Allemands étaient déjà en France, et j'ai jamais réussi à comprendre ça maintenant, et après c'était trop tard, voilà. Et on est parti sur Dunkerque, et le train a roulé, c'était la pagaille la plus totale, et on a continué vers le sud, le train continuait, on ne savait pas vers où, vers le sud. On est resté d'un vendredi après-midi jusqu'au samedi d'après, 8 jours dans ce train, pour arriver dans un bled qui s'appelle Carbonne, pas loin de Toulouse. Et là, la Croix-Rouge nous a fait descendre sur un camion. On a débarqué dans un village qui s'appelle Montesquieu-Volvestre, un très joli village d'ailleurs. Voilà comment je suis arrivé en France.
Et de là, bon, sans donc dévoiler votre histoire totalement pour inciter nos auditrices et auditeurs à aller voir le film documentaire, vous avez malheureusement perdu vos parents, je crois, et votre frère, non, votre frère aîné, non, mais vos parents, oui, ont été déportés. Et vous avez pu passer par l'Espagne et donc émigrer vers la Palestine, c'était en 1944. Et c'est pourquoi nous avons entendu cette ère de musique en votre hommage, donc parce que cette période palestinienne, puis israélienne, puisque vous avez participé à la guerre d'indépendance, je crois.
Oui, j'ai participé comme soldat de deuxième classe, j'ai été blessé, j'étais réformé, j'étais démobilisé avant terme, puisque j'étais plus bon à rien, j'avais le bras droit complètement paralysé, mais ça s'est arrangé un peu par la suite, etc.
Et c'est comme ça, je crois, que vous êtes passé du violon que vous jouez au cor. Mais alors, comment vous est venu un petit peu ce sens de la musique? Pourquoi la musique? Est-ce que chez vous, vous êtes la musique?
Ou pas plus que dans une autre famille juive, ashkenaze et pratiquante. Parce que bon, à la maison, Shabbat, les Zmirot, le Kiddush, à la synagogue, partout, il y avait de la musique. Mais de la musique juive, jusqu'à 13 ans, j'avais entendu rien d'autre. Jamais entendu de musique classique.
Alors, vous avez une oreille absolument incroyable. Pendant qu'on écoutait, vous étiez déjà en train de dire « Ah, c'est trop, la flûte, elle joue, elle est trop basse par rapport au piano. » Enfin, voilà, donc... et vous m'avez dit hors micro que vous aimiez la flûte, je crois, vous avez...
Non, mais j'ai découvert que j'avais l'oreille musicale, comme on dit, en écoutant de la flûte à bec. Et c'était en Andorre, après que nous avions passé... vers l'Espagne, et on pouvait pas sortir la journée parce qu'il y avait plein d'espions allemands. On sortait que le soir. On était dans un petit hôtel, puis il y avait un des jeunes qui était passé là, qui jouait très bien de la flûte. Il avait une flûte à bec, et moi j'étais fasciné parce qu'il jouait d'un instrument. C'était une révélation pour moi. Et je m'asseyais dans sa chambre pendant des heures. J'écoutais jusqu'au moment où j'observais, je regardais ce qu'il faisait avec ses doigts. Et puis à un moment où il me semblait saisir la corrélation entre les mouvements des doigts et le résultat sonore, j'ai dit, est-ce que je peux essayer de jouer sur la flûte? Puis aussitôt, je me suis mis à jouer. Et puis après, tout ce que j'entendais, je jouais d'oreille, voilà. Je savais pas le solfège ni rien, mais...
Et ça résume totalement votre parcours, parce que vous êtes un autodidacte, Simra, avec toujours cette curiosité, ce sens de l'expérimentation. Alors, juste pour aller assez vite, parce que malheureusement, on aurait de quoi faire 18 émissions, mais on n'a qu'une petite, même pas une petite heure. Donc, 1944, vous avez 14 ans.
Oui.
Vous êtes pris en charge, vous émigrez donc en Palestine. De là, je crois que vous allez en kibboutz ou quelque chose comme
Aliyat HaNoar, l'Aliya des jeunes. J'ai passé 4 ans dans les maisons... dans deux villages, l'Aliyat HaNoar. Et puis après, c'était 48, et 48, on était printemps 48, et avec trois copains de la même promotion, comme on dirait aujourd'hui, ben on s'est porté volontaire pour aller à l'armée, pour aller faire la guerre.
Et après, donc, après la guerre d'indépendance, donc où vous avez été blessé au bras, comme je le disais tout à l'heure, vous vous mettez au corps, parce que je vous ai lu, pourquoi le corps
c'est... Pourquoi le corps? Parce que c'est le seul instrument qui se joue de la main gauche, et quand j'avais plus de main droite ni de bras droit, enfin je pouvais m'en servir, j'étais paralysé. Alors le seul instrument possible, vrai instrument, c'était le corps qu'on joue de la main gauche. Alors j'étais, comme je voulais être musicien, j'ai décidé de jouer du corps.
Et vos études de corps, vous les avez faites où? Alors en Israël ou en France enfin...
J'ai commencé en Israël, après avoir été démobilisé. Et 2 ans après, je suis venu à Paris. Et j'ai essayé d'entrer au conservatoire, où la première année, je n'avais pas le niveau. Et la deuxième année, enfin, après 1 an de préparation, en quelque sorte, je suis rentré au conservatoire. 2 ans après, je suis sorti avec mon premier prix.
Oui, bah ça c'est pas étonnant, c'est pour Simra. C'est vraiment une histoire assez incroyable. Alors on va continuer ce parcours avec vous, toujours en musique, et on va écouter un troisième morceau, cette fois-ci de musique africaine, et vous verrez tout de suite après pourquoi la musique africaine, puisque l'Afrique et Simra sont intimement liés. Il s'agit de la musique des trompes, des Banda Linda. Alors juste avant qu'on l'écoute, en un mot, qui sont les Banda Linda? C'est quoi une trompe et comment cette musique fonctionne-t-elle? On va pas rentrer dedans, mais enfin en gros, c'est quoi une trompe et c'est qui les Banda Linda?
Mais les Banda Linda sont une des ethnies principales de la République centrafricaine, où j'ai eu l'occasion et le bonheur, je veux dire, de passer 4 années. Et c'est là que j'ai appris ce métier d'ethnomusicologue sur le terrain, parce que j'avais aucune préparation pour ça. Et les Banda Linda ont des orchestres de trompe, et la particularité de ces orchestres, c'est que chaque trompe ne fait qu'un seul son. Mais dans l'orchestre que j'avais enregistré, parce que le nombre de trompes dépend, j'ai eu l'avantage, la chance de trouver un orchestre où ils étaient 18. Et chacun joue autre chose, et une seule note, et l'imbrication de ces notes selon une rythmique extrêmement complexe donne des musiques très 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 étonnantes. Voilà.
Alors je vous propose qu'on écoute tout de suite donc un extrait des musiques des trompes des Banda Linda. Un morceau intitulé Ndraje Balendro, j'espère que je le prononce bien, c'est le morceau fétiche, c'est votre morceau fétiche je crois Simra, vous me le disiez hors micro, donc musique des trompes des Banda Linda, et c'est assez incroyable. Alors quand on entend, on se rend pas compte de la performance vraiment exécutée, parce que comme vous l'avez dit, chaque musicien ne joue qu'une note, il faut qu'elle la joue au bon moment,
voilà.
Et avec la bonne rythmique par rapport aux autres. Alors, c'est évidemment une musique dans laquelle il faut se laisser porter, laisser bercer. Là, ça, c'est un simple extrait qui ne nous donne pas une véritable idée, mais il y a un côté un peu hypnotique. Alors, je viens vers vous de nouveau, Gabriel Chabanier. Parce que vous avez dit tout à l'heure que vous étiez parti filmer dans beaucoup de pays, dont l'Afrique. Vous êtes allé où en Afrique exactement ?
On est allé en République centrafricaine, où Simra a vécu pendant ces 4 années. Et disons que l'idée du film, c'était l'idée de Jérôme Bloomberg, c'était de retourner sur les différents lieux de vie de Simra pour pouvoir faire émerger un sentiment, une conversation et un témoignage original. Et on a commencé par l'Allemagne, comme on l'a dit. Il a fait tout un tour en France, là où Simra a vécu jeune. Et puis après, l'étape suivante, c'était le moment où Simra devient ethnomusicologue en Afrique, où il développe la connaissance de la pratique musicale de toutes ces populations. Et également, ils ont créé un musée, on voit dans le film, qui est extraordinaire, avec des instruments locaux qui sont encore là. J'espère qu'ils sont... On a eu de la chance parce qu'on a tourné avant la guerre de Centrafrique. Ouais. On était un an juste avant, mais si c'était aujourd'hui, on ne pourrait pas faire ça. Je ne sais pas dans quel état le musée aujourd'hui. Et c'est un travail monumental que Simra a fait avec...
Geneviève Drummond.
Geneviève, qui de conservation de ces instruments extraordinaires.
Alors, est-ce que vous pouvez nous dire, Simra, un peu, comment vous est venue cette idée d'aller en Afrique, là? Parce que c'est pas venu tout seul, je crois.
C'était le ministère des Affaires étrangères, le département de la coopération internationale, qui m'avait contacté, parce qu'ils voulaient ils avaient besoin de quelqu'un qui jouait d'un instrument à vent en cuivre, et qui soit francophone. Alors, bon, en Israël, à l'époque, il n'y en avait pas tellement. Donc, voilà. Et moi, je trouvais ça intéressant de partir, on m'a dit, pour un an en Afrique. Et le but était de créer une fanfare. Ça m'intéressait pas tellement de fabriquer des fanfares. Je me suis dit, par curiosité, simple curiosité, ce serait bien de faire autre chose que de jouer dans un orchestre symphonique. Et voilà, et de rencontrer des gens et des cultures que je n'avais autrement aucune chance de rencontrer, sauf en tournée, mais une tournée d'orchestre, on ne rencontre pas les gens. Et j'ai accepté, et puis j'ai expliqué au président de la République de l'époque que plutôt que de lui fabriquer une fanfare, il en avait déjà deux qui étaient mauvaises toutes les deux, il avait besoin d'une troisième, que je ne saurais pas faire mieux en un an, mais en revanche, qu'il avait une musique extraordinaire, des musiques extraordinaires, qu'il fallait les enregistrer. Et curieusement, il m'a répondu, c'est un homme comme vous que j'attendais. J'ai dit, ben voilà. Et c'est comme ça que ça a démarré.
Alors, votre vocation d'ethnomusicologue est donc née sur le continent africain. Oui. Et vous avez fait de l'ethnomusicologie un peu comme Monsieur Jourdain de la prose en Bourgeois Gentilhomme de Molière. Et en Afrique, donc, vous êtes trouvé face à des situations musicales complexes et vous avez inventé des outils simples pour les résoudre. Est-ce que c'est cela, l'ethnomusicologie? Comment vous pourriez définir ce terme, cette discipline? C'est quoi l'ethnomusicologie?
Ouais, il y a au moins 50 définitions, et tout le monde aura une autre idée de la chose. Pour moi, l'ethnomusicologie, c'est l'étude des musiques qui n'ont pas d'écriture, c'est-à-dire des sociétés pré-industrielles, comme on dit. Et je considère la musique, c'est comme une langue, c'est un système sémiologique qui a ses propres règles, qui a donc une grammaire. Et le plus important, c'est pas d'en enregistrer beaucoup, et qu'il faut, ça il faut le faire pour sauvegarder, mais le plus intéressant, c'était de pouvoir décrire une musique comme on décrit une langue, c'est-à-dire de mettre sur du papier les règles qui font fonctionner une musique. Voilà. Ça, pour moi, c'était et c'est toujours le but de cette discipline, avant toute autre chose.
Alors, merci pour ces explications lumineuses et je vous propose une quatrième pause musicale avec, on part dans un tout autre horizon, une polyphonie de Géorgie, puisqu'on va en parler tout à l'heure. Il s'agit de l'ensemble Marani qui interprète Alilo, un chant de procession de Noël, le terme Alilo dérivant directement du mot Alléluia.
Oh,
1967, à Lillo, donc ce chant collecté par l'ethnomusicologue Yvette Grimaud. Extrait donc d'un CD qui s'appelle Ensemble Marani, polyphonie de Géorgie. C'est publié chez Buda Musique dans sa collection Musique du Monde. Et Gabriel Chabanier, alors vous, toutes ces musiques, maintenant vous les connaissez, puisque à force de suivre Simra pendant trois ans, vous avez entendu plusieurs univers sonores. Est-ce que vous pouvez nous en parler un peu?
Ce qui est intéressant dans la démarche, moi je trouvais de producteur aussi, c'est pas que le côté filmique, c'est aussi l'univers musical que ce film pouvait raconter et que la vie de Simra raconte de son enfance, donc avec la musique de jouer dans la synagogue, la musique klezmer, la musique de rassemblement, et après sa formation classique. Parce qu'il a aussi beaucoup joué dans des orchestres de musique classique et un plongeon dans la musique, on va dire, moi je dis traditionnelle ou populaire africaine, puis dans d'autres pays, notamment en Géorgie. À chaque fois, il y a une très très grande puissance, force émotionnelle et beauté de ces musiques qui sont extraordinaires. Et ça, c'est vrai que ça fait presque des frissons. À chaque fois qu'on les écoute, et c'est rare, c'est parce que c'est pas n'importe quelle musique. Et Simra s'est intéressé à des belles musiques, en fait. Alors, qu'est-ce que c'est que la belle musique? Je sais pas, mais en tout cas, c'est
la
ça
musique qui vous vient au cœur,
voilà,
et qui vous
ça.
Fait vibrer, tout simplement.
Des musiques belles et complexes.
Complexes aussi, ouais. Bien sûr.
La complexité de la musique qui me fascine, parce que, en fait, je travaille sur des musiques que j'entends et que je ne comprends pas. Et mon but, c'est de comprendre comment ça fonctionne. C'est pouvoir en établir la grammaire. La grammaire, ça fait un peu rébarbatif. Mais en fait, c'est comprendre. Et une fois qu'on comprend, c'est formidable, c'est merveilleux. On voit comment l'esprit humain travaille, et comment d'autres civilisations que la nôtre, sans avoir recours à l'écriture, parce que c'est ça qui est important en ethnomusicologie. Ce sont des musiques qui ne sont pas écrites.
Ouais, c'est que de l'oralité, quoi.
Voilà. Mais c'est transmis de génération en génération. Les chants géorgiens, par exemple, la musique géorgienne, les polyphonies géorgiennes, ce sont des polyphonies à trois voix très compliquées. Et il y a des témoignages qui parlent de ces musiques 8e, 9e siècle, donc elles datent pas d'hier.
Oui, alors c'est cette curiosité, comme je le disais tout à l'heure, cette envie de comprendre qui a fait que vous êtes entré et vous avez fait l'essentiel de votre carrière au CNRS. Moi, je vous ai connu dans le cadre du LACITO, le Laboratoire des Civilisations à Tradition Orale, où vous aviez rassemblé autour de vous toute une multitude d'étudiants qui ont pour la plupart d'ailleurs fait des carrières brillantes. Oui. Et on était absolument passionnés par tout ce qu'on apprenait de vous, Simra Arom, et je pense que ça fait partie d'un peu de cette envie de transmettre, d'apprendre et de transmettre, en fait, peut-être.
Oui, c'est plutôt une tradition juive, hein, parce que moi je faisais de l'enseignement qui n'était pas un enseignement, c'était un séminaire où je venais, et je disais aux étudiants qui faisaient du terrain, quand vous revenez du terrain, vous venez exposer sur ce que vous avez fait et vous présentez vos problèmes. Et après, on en discutait, tout le monde discutait, une grande table, il y avait des fois 40 personnes. Et ça discutait, dans la mesure où on n'était pas agressif, on pouvait tout dire. Voilà, c'était la seule condition. Et ça se passait un peu comme, après, je m'en suis rendu compte plus tard, comme dans une yeshiva. C'est pas le professeur qui ex-cathédra fait des discours, c'est le rabbi qui dit oui, alors est-ce qu'on peut interpréter ça de cette manière, mais on peut ouvrir aussi d'une autre. Alors, et toi, qu'est-ce que tu dis? Ah oui. Ah, et quand quelqu'un dit une bonne réponse ou trouve une solution différente de celle du rabbi, eh ben, le rabbi dit, ben voilà, chidouche en hébreu, c'est un renouvellement, et c'est bien. Et c'était vraiment une atmosphère où tout le monde participait, et moi j'adorais, c'était l'un des moments les plus beaux de ma vie, ce séminaire.
Et alors, dans ce séminaire, il y avait le rabbin Simra, mais il y avait beaucoup d'africanistes, c'est-à-dire qu'on entendait beaucoup plus de musique africaine que de musique juive, mais vous avez concilié ces deux éléments, ces deux parties de votre identité presque, avec ce travail monumental que vous avez initié sur les Beta Israël, les Juifs d'Éthiopie. Est-ce que vous pouvez nous dire, on sait bien qu'en 1986, vous avez initié ce travail, il y avait des Juifs d'Éthiopie qui ont commencé à arriver. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de la jeunesse de ce projet? Comment s'est née cette idée?
En 85-86, c'était l'opération Moïse, Mifsa Moshe en hébreu, où il y a plusieurs dizaines de milliers de Juifs d'Éthiopie qui sont arrivés. Et moi, j'ai tout de suite vu que dans le creuset israélien, cette musique allait, la liturgie surtout, c'était leur liturgie qui était tout à fait particulière, elle risquait de disparaître en très très peu de temps. J'ai vu la même chose en Afrique, bien avant, en Centrafrique aussi. Donc, et là, je me suis un peu alarmé. J'avais rêvé d'aller en Éthiopie, voir des juifs noirs en Éthiopie bien avant, mais c'était le régime communiste, et là, je n'osais pas y aller parce que on ne sait jamais comment ce serait terminé à l'époque. Mais tout d'un coup, voilà, des juifs noirs, donc africains, qui arrivent en Israël. Et moi qui, depuis 20 ans, j'ai travaillé sur des musiques africaines. Je me dis, voilà, ça c'est la synthèse, c'est la boucle qui se boucle, c'est formidable. Et bon, j'ai dit, il faut enregistrer cette musique avant qu'ils disparaissent. Et j'ai été aidé un peu par les institutions qui les accueillaient, après beaucoup de difficultés, et aussi par le Centre d'études de musique juive de l'Université de Jérusalem, qui était dirigé par un très 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 ami proche, le professeur Israël Adler, que Dieu ait son âme. Et donc, j'ai eu accès aux prêtres, parce qu'il n'y a que les prêtres qui chantent les liturgies des Juifs d'Éthiopie, et à tout l'appareillage technique du centre de musique juive de l'université. Et il fallait faire vite parce qu'on m'a pas donné beaucoup de temps. Et j'ai demandé aux prêtres de faire une estimation quelles sont, selon eux, les pièces les plus représentatives, les plus emblématiques, liées au calendrier rituel de l'année, et non seulement de l'année, mais en général aussi pour les mariages, les enterrements, les brit mila, etc. Et c'est eux qui m'ont dit ce qu'il fallait enregistrer. Et après, on a fait, je sais pas, peut-être 25 ou 30 heures d'enregistrement, et ensuite, la première chose que nous avons fait, c'est de dupliquer des cassettes pour les donner à toutes les familles de ces Kesoch, c'est le nom des prêtres en langue guèze, qui est la langue des prêtres éthiopiens. Et ensuite, c'est comme ça qu'a commencé ce projet, qui comportait également des études linguistique sur les langues, parce que ces prières sont chantées en deux langues différentes, ethnologiques. Et là, j'ai ameuté mon ami et collègue Franck Alvarez Pereira, qui est aussi au CNRS, qui était dans le même labo que moi. Il s'est trouvé qu'il y avait un étudiant qui voulait faire une thèse, qui n'avait pas de sujet de thèse, qui avait une très bonne oreille, Olivier Tourny, et je l'ai embarqué avec nous. Et il y avait une ethnologue israélienne qui vivait là-bas et qui connaissait beaucoup de choses sur les Éthiopiens que nous ne connaissions pas, Shoshana Bendor. Et avec cette équipe de quatre, on a fait un gros bouquin qui n'est pas encore paru, mais qui traite de tous les aspects de la vie de ces Juifs en Éthiopie, mais avec un accent particulier sur la musique. Et voilà. Et enfin, là, on vient de sortir trois CD qui sont une partie de cet ouvrage, qui représente l'essentiel, on peut dire, la quintessence de cette musique, qui est une musique qui s'est transmise comme ça depuis des centaines d'années.
Alors ces trois CD, je les ai sous les yeux, le coffret donc s'appelle The Liturgy of Beta Israel, la musique des juifs et des prières juives éthiopiennes, c'est publié donc par le Centre de musique juive de Jérusalem de l'Université hébraïque, dirigé par Edwin Seroussi, avec la contribution de l'équipe dont oui. Vous avez cité les noms, voilà, Franck Alvarez Pereira, Olivier Tourny, Shoshana Bender, et à vos côtés bien sûr, Simra Arom. Et je vous propose tout de suite d'écouter un extrait de ce coffret. Après, il s'agit d'un chant un peu particulier. Alors, ma prononciation du guet sera désastreuse, vous m'en excusez. C'est donc une prière de la fête du Sigd, qui est une fête spécifique aux Juifs d'Éthiopie. C'est en fait quoi, en deux mots, la fête du Sigd ?
Alors là, je ne pourrais pas vous en dire davantage. C'est une fois par an et c'est une fête spécifique des Juifs d'Éthiopie, comme les spécifiques. Le fait que leur liturgie n'est pas en hébreu, c'est la seule communauté juive qui ne prie pas en hébreu, mais en guèze.
Alors on écoute de suite cette prière.
<t'->
Le début de la fête du Sikht avec cette prière intitulée Wahi Argu Devre, je ne sais pas si je prononce bien, mais alors c'est tout à fait étonnant, c'est à la fois on dirait de la musique africaine, mais ce n'est pas de la musique africaine. Et combien sont-ils à chanter? Comment ça se passe?
Dans la liturgie, il n'y a que les prêtres qui chantent.
Que les prêtres.
L'auditoire ou les gens qui viennent pour prier, ils écoutent. Ils n'interviennent pas. Ça peut durer des heures, mais ils ne font rien. Ce sont les prêtres, et les prêtres, selon ceux qui sont là. Alors, si c'est une grande communauté, ils peuvent être 5 ou 6, sinon ils peuvent être à 2 aussi. Et là, ils étaient environ 8 ou 9.
D'accord. Mais alors, ils chantent en guèze, c'est une langue des initiés. Les fidèles comprennent cette langue ou non, le guèze?
Non.
Non, donc non seulement ils sont là, mais ils ne comprennent,
oui,
pas,
comprennent pas le
texte des prières.
Oui, oui, ça c'est comme ça.
C'est assez incroyable. Mais alors, comment, j'allais dire, ils arrivent à s'attacher, à s'approprier cette liturgie? Parce que dans la plupart des traditions juives, l'aspect justement des prières est tellement important, la musique, est-ce que c'est par la musique uniquement ou...
La prononciation, l'atmosphère, en fait, si vous allez dans une communauté en diaspora ou en France, des juifs qui sont dans une synagogue, il n'y en a pas beaucoup qui connaissent l'hébreu, et pourtant ils prient. Ou bien même ils ne prient pas, mais ils écoutent. On est un peu dans cette situation-là.
C'est vrai, tout à fait. Alors, comment ça fonctionne un peu ce chant? Alors, sans rentrer évidemment dans tous les travaux, je rappelle que j'avais reçu en 2011 Olivier Tourny, qui a travaillé sur cette musique sous votre direction, qui avait publié un livre sur le chant liturgique juif éthiopien aux éditions Peters.
Un très beau livre où justement il met à plat tout le fonctionnement musical de cette musique.
Alors moi je vais vous demander, non pas en un livre, mais vraiment en même pas 2 minutes, d'essayer de nous expliquer un petit peu les différents type de chant. Enfin, je vais vous dire, j'ai compris qu'il y avait 3 types de chants, antiphonal, responsorial et hymnolique, mais est-ce que vous pourriez nous donner quelques explications sur ces 3 termes?
Bon, alors, un petit amphi très 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 court. Antiphonal, c'est simple, c'est un soliste chante un énoncé, et les autres prêtres qui font office de chœur répètent le même énoncé, y compris les mêmes paroles. Et puis, on avance de verset en verset. En général, c'est la même mélodie qui revient et c'est le même partage entre les deux. Soliste, chœur, soliste, chœur. Ça, c'est antiphonal. Responsorial, comme son nom l'indique, ça veut dire que le chœur ne chante pas la même chose, mais complète ce que dit le soliste, il répond en quelque sorte. Donc la phrase est coupée en deux, mais le matériel musical de la partie qui revient au chœur est différente de celle qui est énoncée par le soliste. En hémiol, alors c'est beaucoup plus compliqué, c'est que vous avez une séquence qui est faite de 6 éléments, de 6 alternances en fait, soliste, chœur, soliste, chœur, soliste, chœur, mais elle est divisée du point de vue du matériel mélodique en 2, c'est-à-dire soliste, chœur, soliste, chœur, soliste, chœur. En fait, c'est une relation de 2 contre 3, ou de 3 contre 6, de 2 contre 3, de 4 contre 6, qui s'appelle hémiolique en musique, parce que ce sont des structures rythmiques qui sont souvent comme ça. On en trouve beaucoup dans la musique du Moyen-Âge et de la Renaissance.
C'est-à-dire qu'il y a un décalage entre le texte et la mélodie, mais qui se recale régulièrement sur des périodes de 6.
Au bout de 6, on est au point de départ.
D'accord.
C'est 2 contre 3, mais 2 contre 3 utilisé comme un principe formel. Mmh. Et ça, c'est une je ne l'ai rencontré que dans les musiques africaines.
Alors, on va écouter justement un autre exemple qui va reprendre vos explications, c'est-à-dire que j'ai fait un petit montage de 3 prières extraites donc de ce coffret magnifique, The Liturgy of Beta Israel, dont je donnerai les références à la fin de l'émission. Donc la première, Itbarek Exi Abaer, est de type responsorial, vous entendrez donc le solliciter des fidèles qui se répondent en reprenant les mélodies. La deuxième, de type antiphonal, et enfin la troisième, de type hémiolique. On écoute. Trois prières de la liturgie juive éthiopienne, Donc, comme Simra Aram nous l'a décrit, avec différents procédés. Ce qui est assez incroyable en plus, c'est que évidemment, ce coffret sur la liturgie des Béta Israël est fourni avec un livret très très épais, comme sait le faire le Centre de musique juive de Jérusalem, qui explique bien tous les procédés. Et dedans, j'ai cru lire que on pouvait indifféremment, les prêtres pouvaient utiliser un procédé ou l'autre, comme ils le souhaitaient en fait, selon leur envie.
Ce n'est pas selon leur envie, selon la circonstance. C'est-à-dire que si il y a un caisse important qui vient les visiter, alors on utilise la forme la plus complexe, celle de l'émiole. Et sinon, si alors on peut le faire en antiphonal ou en responsorial, selon le temps dont on dispose aussi, parce qu'il y a cet aspect-là, il y a des prières qui doivent être dites avant le lever du soleil ou avant le coucher du soleil, et il faut arriver à dire toute la prière avant. Alors si on est un peu en retard, eh bien on fait plus court, on fait le plus court possible. Donc ça peut être modifié.
Alors, une des particularités, enfin, c'est qu'il y a des prières qui sont dansées, et même à Yom Kippour. Alors, je vous propose d'écouter une de ces prières, et on va sentir tout à fait l'influence et l'inspiration africaine. Il te reste combien de temps là? Une prière dansée durant Yom Kippour par les prêtres, les Kesotch éthiopiens, Watafessar, Baba Alecha, toujours extrait donc de ce magnifique coffret de 3 CD, The Liturgy of Beta, The Beta Israel. Si vous voulez trouver les références de ce CD, je vous invite à consulter le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, où vous pourrez trouver tous les renseignements et ainsi que réécouter cette émission. Car, chères auditrices et auditeurs, notre émission est maintenant terminée. Simra Aram et Gabriel Chabanier, merci infiniment pour votre présence dans ce studio. C'était trop court. Vous avez tellement de choses à nous raconter. Et moi, ce qui me fascine, Simra, c'est, vous avez eu 89 ans, toujours cette énergie, cette envie d'en savoir plus. Alors, comme on dit chez nous, jusqu'à 120 ans, des projets.
Merci, merci.
Et merci pour votre présence. Je vous rappelle surtout la projection du film Simra au Mémorial de la Shoah à Paris le 27 juin à 19h30. Vous pouvez également réserver en ligne soit sur le site du Mémorial, soit sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives. Profitez-en, ça ne coûte que 3 ou 5 euros. Donc retrouvez bien sûr toutes ces informations, le podcast de cette émission sur le site de l'Institut Européen des Musiques Juives, www.iemj.org, et puis bien sûr sur le site de judaicfm.com. Au micro Hervé Roten, Serge, que l'on remercie infiniment à la technique, l'Institut Européen des Musiques Juives a été heureux de vous présenter cette émission et vous souhaite une agréable fin de soirée, en musique bien sûr.
Musique juive d'hier et d'aujourd'hui, une émission de l'Institut européen des musiques juives, produite et présentée par Hervé Roten sur Judaïque FM.